José Moselli, l'assassinat de Rufus Jacob. Après avoir été successivement bafoué, endormi et enfin embarqué à son insu sur un paquebot allant au Japon par John Stobbins, qu'il était chargé d'arrêter, le policier Peter Cransby fut enfin de retour à San Francisco. La rage au cœur, sombre et l'esprit hanté de terribles projets de vengeance contre le détective cambrioleur, Peter Cransby, aussitôt débarqué du navire qu'il amenait du Japon, s'en fut directement au bureau du chef de la sûreté, Jeff Smollett Scott. À sa vue, ses collègues au courant de ses mésaventures ne purent dissimuler une grimace ironique. Cransby s'en aperçut, et la salive qu'il avait dans la bouche lui sembla amère. Il ne sourcilla pas, répondit par de vagues monosyllabes aux questions de ses camarades, et fit passer son nom au planton de l'honorable James Morris Scott. « Ah, vous voyez ça, Cransby, lui dit celui-ci, sitôt la porte fermée. Je vous attends depuis 3 mois. Oh, chef, à peine arrivé au Japon, j'ai attrapé la petite vérole. » Moles Scott ne put se réprimer un sourire qui porta à son comble la rage du policier. « Sacré Cransby, fit-il, mais toutes les veines. » « Et John Stobbins ?» interrompit le détective, impatient d'avoir des nouvelles. « Bouclé, hein, chef, bouclé !» Sitôt réveillé à bord du paquebot, je vous ai fait prévenir par TSF. « Oui, parfaitement. Et j'ai pincé notre homme. Il avait eu l'imprudence de venir ici, sous votre déguisement. Oh, le rossard !» « Je l'ai proprement coffré. »« Oh, je suis heureux, chef. » Et le soir même, il s'est envolé sans aéroplane. Il court encore. Cransby regarda son chef avec des yeux ronds. Il laissa tomber ses mains sur ses genoux et murmura d'un ton découragé. « Mais c'est le diable, cet homme-là. » « Oh, diable ou non, il est actuellement passible de la chaise électrique. Il ne se contente plus de voler maintenant, il assassine. »« Ah ? » ?»« Oui, oui, je suis content de vous voir arriver. Je vais vous charger de l'affaire. »« Plus que tout autre, vous êtes intéressé à aboutir. Cela vous procurera une belle vengeance. »« Vous pouvez compter sur moi, chef. » « Oh, j'espère, ce sera une occasion de vous réhabiliter. Il est 10 heures. Oh bien, j'ai tout le temps de vous mettre au courant avant midi. Asseyez-vous et écoutez-moi avec attention. »« Oh, quelle ville que c'est San Francisco. Mais quand donc prendrai-je ma retraite ? Figurez-vous qu'on a volé hier au Californian Museum une pièce unique et pesant 200 kilos. Un bas-relief de porphyre provenant des fouilles de Caposacalpetl est d'une valeur inestimable au point de vue de l'art. L'univers savant s'est ému, mais c'est pas de cette affaire que je veux vous parler. Mais elle est intéressante, fit poliment Peter Cransby. « Oui, mais j'en ai chargé Tom Clapham. Donc voici ce que nous savons sur le crime de John Stobbins. Ce matin, à 4 heures, les détectives Sam Corbett, qui venaient de prendre la faction au coin du Portland Street et de Cleveland Avenue, fut fort surpris en constatant que la porte du numéro 153 de Portland Street était entrouverte. « Ah, 153 Portland Street, mais c'est là où habite l'usurier Jacob Rufus ?» interrompit Cransby. Tout juste, c'est ce qui vous explique l'étonnement de Sam Corbett devant cette porte à demi fermée. Rufus est riche, très riche. Le quartier n'est pas sûr et chacun sait que le vieux Grigou est homme de précaution. Donc, Sam Corbett, intrigué, siffla son collègue le plus proche qu'il pria de le remplacer et, ayant poussé la porte, pénétra dans l'antre du vieux Rufus. Après avoir parcouru un étroit couloir, il vit une porte fermée seulement au loquet. Il l'ouvrit et la franchit. Enfin, vous vous en rendrez compte vous-même. Après avoir parcouru plusieurs salles, il arriva dans une sorte de chambre forte en maçonnerie, dans laquelle il aperçut le cadavre de Jacob Rufus, la tête ouverte en deux d'un coup de hache. Dans la pièce se trouvait un coffre fort grand ouvert et tout neuf. Bon, c'est tout. Mais que vient faire John Strabbins dans cette affaire, chef ? Questionna Peter Clansbury. Peu de choses, sinon que dans la poche de Rufus Sagob se trouvait une lettre inachevée, écrite par lui et adressée à John Strabbins. D'ailleurs, la voilà. Et ce disant, James Follett Scott ouvrit un dossier placé sur son bureau et en tira une feuille de papier froissée qu'il tendit au détective. Peter Clansbury lut. « Monsieur Strabbins, vous me ruinez. Vous savez bien que je ne suis pas riche. L'affaire dont vous me parlez ne m'a pas laissé de bénéfice, je vous le jure. Mais pour vous prouver mon amitié, je consens à... » Peter Clansby leva la tête. Ce document est terriblement accusateur pour John Strabbins, dit-il. « Mais a-t-il été écrit par Rufus ?» Tout est là. J'ai prévu cette objection, dit Mollet Scott. Deux experts, convoqués ce matin à la première heure, ont affirmé l'authenticité de cette lettre. De plus, sa comparaison avec d'autres écrits du malheureux Rufus ne laisse aucun doute. Peter Clansby sourit. Ses yeux brillèrent d'une joie infernale. « Oh, merci, chef, de m'avoir confié cette affaire. Ah, maudit Strabbins, je l'amènerai moi-même à la chaise électrique. »« Je vous le souhaite, » dit Mollet Scott. « Je pars, chef. Bonne chance. » Peter Glenby sortit. Il était comme transfiguré. Il passa au milieu de ses collègues sans les voir et sortit de l'hôtel de la Sûreté. En quelques minutes, il arriva chez lui et, sans prendre le temps de manger, se mit en devoir de se déguiser. C'est pourquoi, une heure plus tard, un ouvrier maçon se présentait devant le numéro 153 de Portland Street. Une foule énorme y stationnait, commentant le crime, et le nom de John Strabbins était dans toutes les bouches. À la vérité, beaucoup de gens doutaient de la culpabilité du détective cambrioleur, John Strabbins ayant pour habitude d'opérer sans douleur. Devant la maison, deux détectives maintenaient la foule. Peter Clansby, d'un signe imperceptible, s'en fit reconnaître et pénétra dans le logis de Rufus Jacob. La maison lui était familière. Plusieurs fois déjà, il y était venu pour interroger le vieux Rufus, qui souvent avait maille à partir avec la justice, étant receleur à 16 heures. En quelques pas rapides, Cranby arriva dans la pièce où Rufus serrait son argent et où il avait trouvé la mort. Le coroner s'y trouvait déjà et, aidé du chef du service anthropométrique, s'occupait à relever des empreintes sur les flancs d'un énorme coffre blanc, grand ouvert, posé au milieu de la pièce. « Bonjour, monsieur le coroner, » fit Clansby, et il se nomma. « Mais rien de plus saillant, » fit l'interpellé, « si ce n'est que nous tenons la preuve que John Strabbins est l'assassin. Ah, j'espère m'en emparer rapidement affirma Clensby. Et laissant le magistrat, il commença ses recherches. Dans le mur, plusieurs coffres-forts étaient encastrés. L'un d'eux était ouvert et laissait apercevoir quelques écrins vides. Deux autres coffres, hermétiquement fermés, étaient intacts. Grimsby prit note de ces détails et alla voir le cadavre de l'assassiné. Jacob Rufus gisait à plat ventre sur le sol d'allée. Le coup de hache, cause de sa mort, avait été porté avec tant de force que la tête était ouverte jusqu'à la nuque. Grimsby regretta que les vêtements du mort eussent été fouillés. Sur le sol, aucune trace de lutte. Somme toute, l'affaire était simple. John Sobbins avait voulu extorquer une grosse somme au vieux Jacob Rufus, et sur le refus de celui-ci, s'était introduit chez lui, l'avait assassiné et dépouillé. Une seule chose tracassait Grimsby. Que venait faire ce coffre-fort blanc au milieu de la pièce? Comme il se posait cette question, il entendit le chef du service anthropométrique s'écrier triomphalement. « Qu'est-ce que je disais, monsieur le coroner? Les empreintes que je viens de découvrir sur le coffre concordent absolument avec celles de John Sobbins. C'est lui l'assassin. » « Mais c'est bien mon avis, » fit le coroner. Grimsby haussa les épaules. « Parbleu, mais c'était l'avis de tout homme sensé. » Le détective, sans bruit, quitta la pièce et gagna la rue. La foule stationnait toujours devant la maison. Grimsby se glissa parmi les groupes et, soudain, son attention fut attirée par deux grands gaillards qui conversaient. « Peu !» disait l'un d'eux. « C'était bien la peine que le vieux Grigou se soit fait livrer le grand coffre. Il aurait mieux fait de commander un cercueil. » Et l'autre homme ricana. « Eh, le coffre est assez grand pour lui servir de tombe. » Grimsby, l'air niais, s'approcha. Alors le vieux Rufus avait commandé un autre coffre, dit-il. Ce qui devait être riche, quand même. Mais je crois bien, fit l'un des deux hommes. Et c'était un beau coffre encore. Je l'ai vu à la portée il y a 8 jours. Il venait de chez Freckton Brothers. Quelque chose de bien. Clayby en savait assez. Tranquillement, il s'en fut, et une demi-heure plus tard, arrivé devant la grande fabrique de coffres-forts blindés Freckton Brothers. Il fit connaître sa qualité au portier et fut rapidement renseigné. Le coffre-fort de Rufus Jacob avait été commandé par téléphone et payé comptant à la livraison. Maigre renseignement. Mais ce fut le seul que Grimsby recueillit. Personne parmi les voisins de l'usurier n'avait entendu quoi que ce fût d'insolite pendant la nuit du crime. Seul un ouvrier vidangeur, revenant de son travail, déclara avoir rencontré à quelques mètres du logis de Rufus Jacob un homme de taille élancée, de mise élégante, qui semblait pressé. Ce signalement, qui s'accordait parfaitement avec celui de John Sobbins, mit Grimsby en joie. À grandes enjambées, il courut chez lui, quitta son déguisement et s'en fut retrouver Molescott afin de lui faire connaître le résultat de sa journée. Arrivé dans le cabinet du chef de la sûreté, il trouva celui-ci occupé à converser au téléphone. James Molescott avait les yeux brillants et semblait écouter avec beaucoup d'intérêt la communication de son correspondant. D'un signe de la main, il invita Grimsby à s'asseoir et d'une voix aussi basse qu'un souffle lui dit « C'est John Sobbins qui me téléphone !» 2 minutes avant que n'arrivât Grimsby, John Smollett Scott avait entendu scinter la sonnerie du téléphone posé sur sa table, et ayant saisi le récepteur, s'était entendu ainsi interpeller. « Allô, James Morley Scott ?»« Parfaitement, à qui ai-je l'honneur ?»« De parler, à John Sobins, lui-même, cher monsieur Morley Scott. »« Et alors, comment va la santé ? Bonne, hein ?»« Allons, tant mieux. » Morley Scott grinça des dents de rage, mais de crainte de rater une occasion intéressante, écouta sans interrompre. John Sobins continua. Alors, vous avez revu ce brave Crosby. Il a dû vous donner des nouvelles du Japon. Charmant pays, le Japon. Étonnant détective, ce bon Crosby. Mais enfin, lâcha Morley Scott à bout de patience. Et alors, vous avez confié l'enquête sur l'assassinat de Portland Street à ce brave Crosby. Pas fort, vraiment. Et comme lui, naturellement, vous me supposez l'assassin, n'est-ce pas ? J'ai vu tout à l'heure ce brave garçon, je lui ai même parlé. Il était vêtu en maçon et arborait une mine superbe. Son voyage m'a fait du bien, j'en suis heureux. Mais je vais couper, grommela Morley Scott, de plus en plus furieux. Mais jamais de la vie, donc je ne suis pas l'assassin. Et pour vous le prouver, je m'offre à vous aider à le trouver, si vous me promettez de ne pas m'ennuyer. C'est à ce moment que Crosby entra. « Ce sera vite fait, » continua Sobins. « Tandis que si vous refusez mon offre, je doute fort que ce pauvre Crosby arrive à quelque chose. »« Mais somme toute, que voulez-vous ?» dit Morley Scott, tremblant de joie. « Moi, rien. Non, je vous dis simplement que je vous aiderai à retrouver le criminel. » Comme il se pourrait que je me rencontre avec ce cher Crosby, je vous prie de me donner votre parole de ne pas m'ennuyer. Oh, nous verrons. Ah, dans ce cas, bonsoir. Rageur, Morley Scott raccrocha le récepteur en disant : Ce misérable s'est moqué de moi. Oh, si je le tiens jamais. Et alors, Crosby, vous avez quelque chose ? Rapidement, le policier fit connaître à son chef le résultat de son enquête, moins que rien. Morley Scott ne cacha pas son mécontentement. « Il faut vous débrouiller, Crosby, » grogna-t-il. « Vous avez une revanche à prendre. » Crosby jura de faire son possible et se retira. Il était dit que ce jour-là, Morley Scott aurait toutes les émotions. Vers 6 heures du soir, alors qu'il allait quitter son bureau sans avoir appris rien de nouveau, un planton vint l'avertir qu'une dame voilée insistait pour le voir sans délai. « Bon, faites entrer !» dit Morley Scott intrigué. La dame entra. Elle était mince et vêtue de noir. Sitôt la porte fermée, elle s'avança près de Morley Scott, qui s'était levé, et d'un geste prompt, lui mit un mignon revolver contre la tempe. « Silence ou je tire ?» dit une voix mâle d'un ton très bas, pas si bas que Morley Scott ne reconnut la voix qui lui avait parlé au téléphone, celle de John Sobins. Ce dernier eut un rire muet et dit « Cher monsieur Morley Scott, mais c'est moi, mais ne bougez pas, hein !» Je viens me constituer prisonnier, cela vous étonne, mais c'est la pure vérité, mais pas tout de suite. » James Morley Scott, stupide, regarda Sobins. La main du détective cambrioleur s'aplatit sur sa face. Cette main tenait une poire de caoutchouc remplie de chlorure d'éthyle. Morley Scott, foudroyé par l'anesthésique, fléchit sur ses jambes et se vit écrouler si John Sobins ne l'eût retenu. En hâte, le détective cambrioleur déposa M. Morley Scott sur un des fauteuils, non sans lui avoir assujetti le tampon de chlorure d'éthyle devant le nez. Ceci fait, il alla tirer le verrou. Puis, s'installant devant le bureau du chef de la sûreté, Il eut au fait d'en inventorier le contenu. En quelques instants, il trouva sans doute ce qu'il voulait. Une vingtaine de feuilles de papier dont il fit un petit paquet très serré. Il cacheta le pli ainsi fait, y colla une étiquette sur laquelle il écrivit « Lord Launceston Stamford, Villa Charlotte, Los Angeles ». Et ceci fait, John Slobbins glissa le paquet parmi le courrier du chef de la sûreté, et après avoir tout remis en ordre sur le bureau, alla s'asseoir auprès de Molly Scott et lui enleva le tampon qu'il bâillonnait. James Molly Scott poussa un soupir, fit une grimace et après quelques minutes d'effort, revint peu à peu à lui. John Slobbins avait rabattu sa voilette et, correctement assis sur sa chaise, attendait. Enfin, le chef de la sûreté reprit complètement ses sens. La mémoire lui revint. Il aperçut Slobbins bien tranquille sur sa chaise et d'un bond fut à son bureau et pressa le bouton de la sonnette électrique. John Slobbins s'écria « Oh, mille pardons, j'oubliais !» Et rapide, il alla tirer le verrou. La porte s'ouvrit et un planton parut. « Appelez du monde !» s'écria James Molly Scott. « Qu'on s'empare de cette femme ! C'est l'assassin John Slobbins !» John Slobbins, souriant, s'écria. « Oui, c'est moi, en effet. Allez, veuillez me passer les menottes, mon ami !» Mais déjà, au cri de Molly Scott, des policiers arrivaient. John Slobbins, en un instant, fut dépouillé de son chapeau, de sa voilette, de ses cheveux postiches. Ses mains furent solidement enchaînées. Lui souriait toujours. Molly Scott triomphait. « Fouillez-moi ce bandit » ordonna-t-il. Deux détectives se chargèrent de ce soin. Ils trouvèrent sur John Slobbins une photographie de Molly Scott et un revolver lance-parfum avec lequel le détective cambrioleur avait menacé le chef de la sûreté. Rien d'autre. La fureur de Molly Scott fut grande. Ainsi, il avait tremblé devant un jouet d'enfant. Il cacha sa rage et dit « Conduisez cet homme dans un cachot et faites attention. Le gaillard s'est déjà échappé plusieurs fois. » Les menottes aux mains, encadrées de quatre solides détectives, John Slobbins fut emmené hors du cabinet du chef de la sûreté. Il semblait joyeux. Avant de franchir la porte, il s'écria « Ne perdez pas votre photographie que vous avez trouvée sur moi. J'y tiens. Adieu, cher monsieur !» Une étroite cellule, sans autre ouverture qu'une épaisse porte de chêne bardée de fer et devant laquelle un gardien fut mis en faction, reçut John Slobbins, toujours habillé en femme. Son évasion était impossible. Tout joyeux, James Molly Scott, contrairement à son habitude, consentit à recevoir les représentants des principaux journaux de San Francisco pour leur annoncer sa capture. Il ne se tenait pas de joie. Convaincu d'assassinat, John Slobbins serait certainement électrocuté et lui, Molly Scott, en aurait enfin terminé avec le rusé cambrioleur. À 7 heures du soir, tout San Francisco connaissait la capture de John Slobbins. Elle fit sensation. Le lendemain matin, James Molly Scott arrivait à peine à son bureau lorsqu'on lui annonça Peter Cransby. Le détective semblait exténué et essoufflé. Chef, chef, figurez-vous, j'ai passé ma nuit dans le quartier chinois et n'ai appris que maintenant la capture de John Slobbins. Ah, s'il est venu se livrer, oh, étonnant, enfin, pourvu qu'il ne s'échappe pas. Il est tenu à l'œil. Oh, mais avec lui, on ne sait jamais. Mais dites donc, chef, j'arrive maintenant de la maison de refuge Jacob, où j'étais allé faire certaines investigations, Vous avez fait enlever le coffre-fort, j'aurais aimé le revoir. Le coffre-fort, quel coffre-fort? Ben, celui qui se trouvait dans la pièce où Rufus Jacob a été assassiné. Je voulais l'examiner. Il avait disparu. Comme il n'y avait personne dans la maison, je supposais que vous l'aviez fait enlever. Moi, mais jamais! Sitôt que John Strobbins a été fait prisonnier, j'ai donné ordre au détective de garde à Portland Street de revenir. À quoi bon garder une maison déserte maintenant que le criminel a été pris? D'autant plus que le cadavre avait déjà été transporté à l'hôpital. Mais alors, qui donc a pris le coffre? Oh, il a fallu une audace. Il pesait bien une tonne au moins, chef. Mais je n'y comprends rien, fit Mollet Scott, devenu soucieux. Allez vous renseigner, que diable, cela doit être facile. Un coffre-fort ne s'envole pas sans être vu. Et faites vite, hein, je suis intrigué. Peter Clensby allait prendre congé lorsqu'on frappa à la porte. Un planton entra et tendit une enveloppe au chef de la sûreté. Nerveusement, Mollet Scott la décacheta. Il en tira un ordre de mise en liberté immédiate au nom de John Strobbins, date du jour même et portant sa signature à lui. Mollet Scott et son cachet. Il en tira aussi un mot du gardien-chef ainsi conçu. Monsieur le chef de la sûreté, conformément à notre ordre que m'a apporté le détective Hornsby, j'ai mis en liberté le nommé John Strobbins, malgré l'étonnement que me causa cette mesure. Avant de partir, John Strobbins m'a chargé de vous remercier. Tonnerre de Dieu! Sacra Mollet Scott. Oh, le drôle s'est encore enfui! Mais c'est un démon, cet homme! Allez me chercher le détective Hornsby! Peter Crosby se précipita. Il revint quelques minutes après et trouva Mollet Scott, violet de fureur, effondré dans son fauteuil. Eh bien! Questionna le chef de la sûreté. Le détective Hornsby, nommé depuis 15 jours seulement, a disparu, lui aussi. James Mollet Scott avait pour principe, et il s'en vantait, de s'occuper d'une seule affaire à la fois. Cette manière d'agir lui avait procuré bien des succès. Mais lors de l'assassinat de Portland Street, elle fut la cause que le chef de la sûreté de San Francisco dérailla complètement. Hypnotisé par la preuve qu'il croyait tenir de la culpabilité de John Strobbins, James Mollet Scott cessa pendant plusieurs jours de s'intéresser à toute autre affaire. Le vol du célèbre bas-relief Inca, commis 2 jours avant l'assassinat de Rufus Jacob, passa en second plan. Grave tort, car le coffre blanc livré chez Rufus Jacob et disparu depuis avait les dimensions suffisantes pour contenir l'inestimable bas-relief. Dans cette affaire, John Strobbins l'a souvent affirmé, le détective cambrioleur n'agit que pour l'amour de l'art. Seules de déplorables coïncidences faillirent faire avorter un projet qui lui était cher. 15 jours avant la fin tragique de Rufus Jacob, John Strobbins avait rencontré dans une rue de San Francisco son vieil ami Tom Smiley. Bien que l'ayant vu la dernière fois 5 ans auparavant, John Strobbins fut frappé du changement effectué dans sa physionomie. Interrogé par lui, Smiley avoua que, à la suite de spéculations malheureuses, il avait dû s'adresser à un usurier. Cet usurier, Rufus Jacob, se montrait intraitable et Tom Smiley menaçait d'être vendu ayant sa femme malade, pensait au suicide, rien n'ayant pu fléchir Rufus Jacob. Généreux comme à l'ordinaire, John Strobbins tendit aussitôt un billet de $100 à son ami et, sans écouter ses remerciements, le quitta en disant « Courage, ne t'inquiète pas, Rufus Jacob, je m'en charge. » Ce que John Strobbins appelait « s'en charger » était simple. Le soir même, il rendait visite au vieil usurier, ayant été, non sans peine, introduit auprès de lui, parlait en ces termes. « Honorable Rufus Jacob, je vois avec plaisir que votre santé est bonne. J'espère que vous avez conclu avec avantage le marché que vous proposez ces jours derniers, Masbaum et Benedict Linton. De fort beaux bijoux, ma foi, et je conçois que leur propriétaire, avant de s'en dessaisir, ait dû être supprimé par ces joyeux garçons de Jack et Benedict. Chut, 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 maître Rufus, cela ne me regarde pas. Je viens simplement vous demander de me remettre séance tenante aux créances sur M. Tom Smiley, ainsi qu'une petite somme de $20,000 pour mon dérangement. Faites vite, je suis pressé. » L'usurier, receleur, blême et frissonnant de peur, essayait de lutter. En vain, il proposa à John Strobbins la seule remise de la créance Smiley. Le détective, cambrioleur, resta intraitable. Il s'empara des papiers que Rufus lui tendait et consentit seulement à accorder un délai de 2 jours au vieil usurier. Après quoi, il prit congé de lui. Le jour suivant, John Strobbins, rendu maussade par le temps gris et pluvieux qui planait sur San Francisco, et n'ayant pas grand-chose à faire, entra pour distraire sa mélancolie dans le Californian Museum. John Strobin était un amateur d'art avisé. La galerie de tableaux et de sculptures de la ville de Los Angeles est renommée dans le monde entier. Et il y avait une heure que le détective cambrioleur flânait dans l'immense musée, lorsque soudain il s'immobilisa en étouffant un cri d'admiration devant un bas-relief de porphyre, splendide vestige de l'art inca et représentant une scène d'adoration du soleil sculpté avec une variété de détails, un souci de l'exactitude et une noblesse infinie. Subitement, John Strobbins se représenta cette pièce unique bien installée dans sa villa. Une envie irrésistible de la posséder s'empara de lui. John Strobbins était loin d'être un rêveur. Il sortit aussitôt du musée et rejoignit ses affidés dans la maison qu'il possédait dans le quartier chinois. Il leur fit part aussitôt de son idée. Ce n'était pas facile. Sortir une pareille pièce pesant plus de 200 kilos et une fois sortie, la transporter à travers la ville. Bien aléatoire tout cela, d'autant plus qu'on ne manquerait pas de s'apercevoir aussitôt de la disparition d'une pièce de pareille importance. Cependant, John Strobbins ne désespéra pas. Après plusieurs jours de réflexion, il entrevit la possibilité de réaliser son projet. Rufus Jacob. Oui, Rufus Jacob, dont la maison se trouvait à 200 mètres du Californian Museum. Le soir même, John Strobbins rendit visite au vieil usurier qui ne lui avait pas encore versé les $20,000 promis et lui parla en ces termes. « Réjouis-toi, brave Rufus, je te fais grâce des $20,000. Oh, que l'Éternel vous protège, je suis un pauvre homme. Allez, fais-moi le plaisir de laisser ces jérémiades pour tes 8 heures. Et écoute-moi bien. Une de ces nuits, on t'apportera un bloc de pierre qui sera enterré dans la cave. N'en souffle mot à personne, sinon je ne donne pas un cent de ta vieille carcasse. Et de plus, demain, dans la journée, on t'apportera un coffre-fort que tu paieras. Bon, c'est la moindre des choses. Et tu garderas jusqu'à nouvel ordre, c'est tout. Silence et obéissance. Mais vous êtes mon père et ma mère, affirma Refuge Jacob. C'est pas flatteur pour moi, railla John Sobbins. Et sur ces mots, il quitta l'usurier. L'enlèvement du précieux bas-relief eut lieu 4 jours plus tard. 4 hommes de la bande de John Sobbins, vêtus en gardiens, s'en saisirent tranquillement et montèrent avec lui dans une voiture qui les mena dans le chantier désert d'une maison en construction dont les ouvriers étaient en grève. De là, l'admirable bas-relief fut transporté dans une voiture de livraison qui l'amena chez Refuge Jacob, où il fut aussitôt enfoui. John Sobbins avait l'intention d'enfermer la précieuse pièce dans le coffre-fort qu'il avait fait livrer chez Refuge Jacob et de transporter le tout à sa villa, à la barbe de la police. Malheureusement, la nuit qui précéda le jour choisi pour l'exécution de ce dessein, Refuge Jacob fut assassiné. Les détectives envahirent la maison, et dans la poche de la victime, on trouva le brouillon d'une lettre qu'il avait projeté d'envoyer au détective cambrioleur. La fureur de John Sobbins fut grande. Il tenait à son bas-relief. De plus, cela lui déplaisait d'être inculpé d'assassinat. Que faire ? Oh, John Sobbins trouva aussitôt. Le soir même, il pénétrait chez le chef de la sûreté, déguisé en femme, et se faisait arrêter par Molly Scott. La nuit suivante, comme l'avait pensé John Sobbins, la surveillance de la maison de Refuge Jacob fut abandonnée, étant devenue inutile par suite de l'arrestation de l'assassin. Les hommes de John Sobbins en profitèrent pour enlever le coffre-fort et le bas-relief. Le lendemain matin, un des gardiens de la sûreté, attaché à la bande de John Sobbins, remettait au gardien-chef l'ordre de lever l'écrou, signé Molly Scott, et que John Sobbins avait subtilisé la veille avec nombre d'autres papiers au chef de la sûreté de San Francisco. En vain, Molly Scott et Glensby, aidés des plus fins détectives de l'Union, essayèrent-ils de percer le mystère de l'affaire de Portland Street. Ils n'en connurent qu'une faible partie, et grâce à John Sobbins. Un mois après l'assassinat de Refuge Jacob, un jeune homme à la mine cave et aux habits en loques demandait à parler au chef de la sûreté pour affaires intéressantes. Aussitôt introduit devant Molly Scott, il s'écria: j'ai de graves révélations à vous faire, mais auparavant, je vous prie de me faire porter à manger. Je n'ai rien pris depuis 48 heures. James Molly Scott fit immédiatement apporter à l'inconnu un modeste repas que celui-ci dévora avec avidité. Une fois repu, il parla. Je me nomme Léon Rufus. Je suis le neveu de Rufus Jacob qui a été tué. Tué il y a un mois. C'est moi qui l'ai tué.
Comment ? Fit Lord Scott en sursautant. Alors, ce n'est pas John Sobbins ?
Non. Mais après une période de misère, j'étais venu voir mon oncle pour lui demander quelques subsides. J'étais très malheureux. Et il me mit à la porte en m'insultant. Oh, je vous jure que je dis la vérité, il m'insulta. Alors je revins pendant la nuit et surpris mon oncle devant son coffre-fort ouvert. J'avais trouvé une hache dans la cuisine, je frappais, j'étais fou. Je m'emparais du contenu du coffre-fort ouvert, des diamants et des banquenotes, et je m'enfuis.
Et qu'avez-vous fait de ces valeurs ?
Je les gardais sur moi et parti pour Los Angeles.
où je menais joyeuse vie jusqu'à ce qu'il y a 3 jours, je fis connaissance dans un café avec un gentleman qui très aimablement m'offrit un dîner. J'acceptai, hélas. Je ne sais pas ce qu'il me fit absorber, mais je m'endormis, et lorsque je me réveillais avant-hier matin, j'étais couché sur un tas d'immondices dans un coin de Hawk Street. De plus, j'étais vêtu des loques dont vous me voyez affublé. Alors, croyant être le jouet d'un rêve affreux, je me fouillais et trouvais dans une de mes poches un morceau de papier sur lequel, je me le rappelle parfaitement, étaient écrits ces mots. Conseil à Léon Rufus, allez avouer son crime à M. Jeff Molescott et essayez ainsi de s'attirer quelque pitié. John Strabins. Et qu'avez-vous fait de ce papier-là? S'écria Molescott en proie à une grande agitation. Mais de rage, je l'ai jeté, j'ai hésité à venir, mais ne sachant où aller, où manger, oh, ayez pitié de moi. Ce jour-là, le San Francisco Herald déclara avoir reçu d'un généreux inconnu la somme de 25 000 $ en banque-notes pour être distribuée aux pauvres. Ainsi, John Strabins restituait l'argent trouvé sur Léon Rufus. Ce dernier fut condamné au hard labor à perpétuité. On lui tint compte de ses aveux. Quant au bas-relief Inca, le monde savant a perdu l'espoir de le retrouver. Nous croyons savoir, cependant, que John Strabins a l'intention d'en envoyer un moulage au Californian Museum.